Et vous écoutez France Culture. Sans un élément de cruauté à la base de tout spectacle, le théâtre n'est pas possible. Antonin Artaud. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre consacré ce soir à l'occasion de la rétrospective que lui consacre la Cinémathèque française à l'immense Todd Browning, réalisateur de Freaks, de Dracula et de plusieurs dizaines d'autres films démiurges d'un monde nocturne et poisseux, burlesque et gothique où se croisent, se trahissent et s'entre-déchirent monstres moraux, prodiges anatomiques, truands et vierges éplorées, escrocs et trafiquants. Todd Browning est sans doute, avec Stroheim, Clouseau et Lang, le plus grand montreur d'ombre de l'histoire du cinéma. Hommage ce soir dans Mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Todd Browning, bienvenue chez les Freaks, bienvenue dans Mauvais genre. En effet, je le répète, une importante rétrospective lui est consacrée à la Cinémathèque et tout auditeur de ce nom de l'émission, de ce nom de l'émission, se doit d'y faire un passage. Alors venez, allez-y, tout seul, à pied, à cheval ou en voiture, mais allez-y, parce que ça ne se reproduira pas de sitôt, Todd Browning à la Cinémathèque. Mais pour l'évoquer ce soir, je suis bien évidemment avec Paco Thielman.
Bonjour.
Bonjour, Paco Thielman qui jeudi a prononcé une conférence très courue sur Todd Browning à la Cinémathèque.
Courue, mais pas très rapide, elle était longue.
Voilà, mais elle était tout à fait pertinente et bien intéressante. Christophe Beer.
Bonsoir.
Qui nous dira tout le bien qu'il faut penser de quel film, monsieur Beer?
West of Zanzibar.
Ah, West of Zanzibar.
Le Talion en français.
Voilà. Fausto Fazulo est là.
Bonsoir, François.
Article dans, j'imagine, Mad Movie sur cette rétrospective Todd Browning.
Oui, on a publié 6 pages sur Todd Browning dans le numéro de janvier, justement, histoire d'anticiper sur la rétrospective à la Cinémathèque française.
Très bien, ben donc nous terminerons ce tour de plateau browningien avec Philippe Rouillet. Bonsoir.
Bonsoir.
Philippe Rouillet, avec qui on a déjà parlé dans cette émission de Todd Browning.
Deux fois
à l'occasion. Alors, ça va être aussi quelque chose.
Mais 203.
Un cri, un appel que nous allons lancer à l'occasion des très trop rares parutions vidéographiques qui le concernent, parce que en matière de Browning, la disette, la famine et la médiocrité, ben, la pauvreté est totale.
On avait tout essoré jusqu'ici, et c'est la Cinémathèque qui nous donne la possibilité de reparler, mais parce qu'il n'y a pas d'autre édition DVD que celle dont on avait parlé dans nos deux précédentes émissions. Et c'est un scandale. Tous les films, quasiment, à part L'Inconnu, dont on va parler ce soir, n'existent pas encore en DVD, même en zone 1. Enfin.
Voilà, donc nous relancerons l'appel à la fin de l'émission à tous les princes qui nous gouvernent, c'est-à-dire à tous les producteurs de vidéos. Quelques mots sur la dernière édition du festival de Gérard May, c'est même du film fantastique, monsieur Rouillet.
C'est 25 ans. Et on peut dire que c'était une assez belle compétition, je pense meilleure que les précédentes années, avec 4 films vraiment intéressants, par ordre décroissant. Il y avait un film d'animation franco-japonais, Motafuka, qui était très intéressant.
Il y avait pour tout public, petits et grands.
Pour tout public, ouais. Un film de zombies québécois, qui était une curiosité et qui ramasse pas mal de l'équivalent de leur César là-bas. Et puis les deux œuvres maîtresses étaient les deux œuvres qui ont été le plus primées au palmarès, qui sont un film brésilien et un film français. Le film brésilien a eu le prix de la critique, que j'avais le plaisir de présider. Ça s'appelle « Les bonnes manières » de Marco Dutras et Juliana Rojas. Et c'est un film qui est passionnant parce que c'est un film qui se réinvente constamment au fur et à mesure qu'on le voit. C'est-à-dire que ça commence comme un mélodrame au Brésil, dans une grande ville, une riche héritière qui prend une jeune infirmière pour l'aider alors qu'elle va accoucher, etc. Et on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées, que la riche héritière a été déshéritée, qu'il y a une sorte d'empathie qui se crée. Et puis finalement, de fil en aiguille, on part du mélodrame et on arrive au film de loup-garou. De manière... Je veux pas tellement vous raconter parce que c'est un des plaisirs du film que de découvrir ça, mais voir un film qui se réinvente comme ça au bout de 3 quarts d'heure, c'est quelque chose d'assez sensationnel. La bonne nouvelle, c'est que le film va sortir en salle en France fin mars. Donc on aura l'occasion de le voir. Et le film qui a remporté le Grand Prix, c'est le film de Pascal Laugier, Ghostland, qui va lui aussi sortir lui à la mi-mars, qui est un vrai film d'horreur. Vraiment bien terrifiant.
Comme on les aime.
Un tueur psychopathe qui se plaît à aller dans des familles. Il tue les parents et il s'amuse à la poupée avec les petites filles.
Ouais, voilà. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est occupé son temps.
Voilà. C'est et dans ce chaos, Mylène Farmer joue une maman. Et elle est comme ça dans une maison de poupées avec des vraies poupées, des fausses poupées. Et y a un jeu avec son image qui est tout à fait intéressant, même si c'est pas l'attrait principal du film. Mais il faut quand même saluer, parce que je pense que tout le monde se demande qu'est-ce qu'elle vaut, Mylène Farmer, dans le film de Pascal Logier. Elle est très très bien. Mais le film vaut pour son côté râpeux, malsain, qui vous laisse un petit goût en bouche.
Un petit goût en bouche.
Eh ben,
je vous dis ça. Voilà. Merci Philippe. Et maintenant, bien, effectivement, on va jouer à la poupée et ouvrir en tout cas l'encyclopédie pratique des mauvais gens avec Maman Céline. Bonsoir.
Je ne suis ni poupée ni Maman Céline. Je suis la maîtresse de l'encyclopédie pratique des mauvais gens, cher François. Et je l'ouvre ce soir à la lettre L comme la vie, Sandre la vie.
Ce que j'essaie de faire, c'est ça, c'est finalement, j'essaie de rencontrer le pire des pires, les gens, les hommes, qu'on ne peut a priori pas adoucir, qu'on ne peut pas rendre plus doux qu'ils ne sont, parce que là, c'est un ultra-violent. Et celui que je connais actuellement, c'est presque pareil. Pas tout à fait, il y a une petite transition un peu douce, mais pas tout à fait quand même. Donc ce que j'essaie de faire dans ma vie d'artiste et dans ma vie tout court, c'est rencontrer les personnes les moins normées ou les moins standardisées et m'en inspirer. Alors je ne sais pas exactement comment ça va se traduire plastiquement, je ne sais pas, je n'ai pas de critères pour vous dire comment ça va se traduire après plastiquement. Sans oublier la joie et la jouissance, parce que j'aime jouir. Et donc les hommes que j'ai choisis étaient toujours plus jeunes que moi, mais de 20 ans. Et moi j'aime la peau douce, quoi.
Il y a ces séries de photos qui toutes portent une action dans leur titre. Maculer, soumettre, méduser, triturer, dissiper, inverser, effacer. Il y a ces dessins faits avec des matières organiques, de la cendre ou des couleurs qui font penser à un nuancier de sang séché et qui représentent des êtres seuls au monde, sans décor, corps nus, grotesques, monstrueux, inquiétants mais vibrants, yeux grands ouverts sur l'intime ou sur les pensées qui traversent. D'autres dessins représentent des corps à corps, des confrontations physiques brutales et intenses, une femelle minotaure qui chevauche un homme au visage de Picasso, une femme qui sodomise un homme. Chez Sandre Lavie, les femmes sont puissantes et maîtresses de leur sexualité. Une sexualité qui met en avant les rapports de force et les tensions entre les êtres, une forme de bestialité magnifique qui ne s'embarrasse pas de bonne manière.
La viande, pour moi, non, c'est pas forcément l'animal mort. C'est aussi le côté vraiment cru de la relation organique entre êtres humains. Le mot chair renvoie peut-être à une sorte de délicatesse, peut-être. Or, le mot viande renvoie à quelque chose de purement organique. Et moi, ce que je vis ces derniers temps, c'est plus dans cet ordre-là, c'est plus dans un ordre de la viande, de quelque chose qui va pas forcément se passer de tendresse. C'est pas forcément incompatible, mais disons que la primeur est donnée à des gestes, à un contact purement organique. Parce que la chair, ça renverrait à la peau quand même. La viande, non. Ça renvoie aussi au sang, à la blessure, au coup éventuellement. Une sorte de violence quand même.
Et qu'on ressent dans vos dessins.
Ouais, qu'on ressent, j'espère.
L'univers de Sandre Lavie, dessin, photographie, lithographie, couture et encre est à retrouver sur son site internet www.sandrelavie.net. On peut aussi découvrir l'une de ses séries de dessins intitulée Candeur dans la toute jeune maison White Rabbit Prod dont je vous parlerai bientôt. Un petit livre à prix tout doux avec des dessins faits à la cendre par Sandre Lavie. Candeur est à retrouver sur le site de www.whiterabbitprod.com.
Merci Céline pour cette entrée, donc Sandre Lavie de notre encyclopédie pratique des mauvais gens. Les nombreux fans de Céline Duchesnay pourront la retrouver tout bientôt, mardi prochain, à la Maison de la Poésie.
À la Maison de la Poésie à 20h, c'est une soirée qui n'est pas dédiée à l'encyclopédie pratique des mauvais genres uniquement, qui est dédiée aux éditions Nada, qui ont publié mon livre. Donc ce sera une soirée lecture avec un poème de Mackay, de Claude Mackay, une nouvelle de John Reid, Pourquoi j'ai cambriolé, un extrait d'Alexandre Marius Jacob, voleur et anarchiste, et puis des lectures et des extraits de l'encyclopédie pratique des mauvais genres, et je serai là, bien sûr.
C'est donc mardi soir, 20h, à la Maison de la Poésie à Paris. Exposition Captain Caverne, monsieur Thielmann.
Absolument, une exposition absolument sublime, magnifique, de Captain Caverne. En ce moment, galerie Corinne Bonnet, et c'est jusqu'au 17 mars 2018. Alors, Captain Caverne, peut-être que vous le connaissez pour ses bandes dessinées, pour les complots cosmiques, les voyages dans les galaxies invisibles et tout ça. Mais c'est aussi un immense peintre, un peintre qui arrive à réunir en lui la puissance à la fois optique, quasiment scientifique, du peintre qui va travailler sur les perceptions optiques, et aussi toute une imagerie et une juvénile, enfantine, très innocente. Il y a quelque chose de Raymond Roussel chez Captain Caverne. Vous pouvez découvrir tout ça à la galerie Corinne Bonnet, cité artisanale, 63 rue Daguerre, 75 014 Paris, du mardi au vendredi de 14h à 19h, et le samedi de 15h à 19h.
Voilà qui est dit. À l'occasion donc de la grande rétrospective qui lui est consacrée à la Cinémathèque à Paris, Mauvais Genre, ce soir sur France Culture, est entièrement consacrée à Todd Browning. Todd Browning, donc, notre sujet de ce soir. Alors, très rapidement, pour rafraîchir les mémoires et pour un peu marquer le terrain, disons que Todd Browning est né en 1880, qu'il mourra en 1962, que les 25 dernières années de sa vie seront consacrées non pas au cinéma, mais à la rédaction de nouvelles qui restent encore à connaître et à traduire et qui paraissaient dans les pulps. Mais avant, sa carrière de cinéaste, des plus géniaux qui fut, eh bien, s'est incarné dans pas moins de 62 films entre 1915 et 1939, l'essentiel étant des films muets, une carrière marquée bien évidemment par deux titans qui furent Lon Chaney et Bela Lugosi. Alors, pas comme tellement hier à la Cinémathèque, vous avez pu exprimer votre vision de Todd Browning. Est-ce qu'on peut la résumer ce soir, cette vision, en ouverture de cette émission? Résumons, il en restera toujours quelque chose.
Oh my god, ok. Donc en fait, Todd Browning, ce qui est extrêmement mystérieux, c'est un mélange, si vous voulez. On sait que c'est les films muets de Todd Browning appartiennent surtout au genre du mélodrame, mais c'est des mélodrames qui se passent dans des univers qui sont des univers ou de gangsters, de hors-la-loi et le monde du cirque, ça ce qu'on connaît beaucoup plus avec Freaks, mais dans les univers parallèles, dans le monde parallèle, le monde en fait à côté de la loi, outside the law, hors de la loi, et avec la recherche en même temps d'une boussole d'orientation qui pourrait être son espèce d'orient intérieur qui est représenté dans Outside the law par le chinois avec ses enseignements de Confucius, c'est-à-dire chercher le juste gouvernement des hommes, ou trouver en tout cas ce qui est une manière, comment dire, peut-être excessive, mais trouver la lumière intérieur de chaque homme, ça qu'on va trouver véritablement dans le personnage de Lon Chaney, qui est à la fois un être toujours, qui joue toujours des êtres ténébreux, abîmés, détruits, détruits pas seulement physiquement, mais aussi détruits par la vie, et où la recherche est celle petite lumière d'action désintéressée, de générosité, d'abnégation, d'amour, qui est on va dire la constante de son cinéma de cinéma de Browning dans l'univers du muet. Bien sûr, quand on y arrive dans le parlant, c'est un peu plus feuilleté, c'est un peu plus divers. Bon, le truc aussi qui est complexe, c'est qu'il nous en reste quand même très peu. C'est-à-dire qu'on en a 26 de films.
Sur les 62.
Sur les 62. Bon, alors, 62, il y avait 14 courts-métrages là qui on les a perdus tous. Et il y a 9 longs-métrages parlants qu'on a tous. Mais au milieu, il y a 48 moins 9, 29. Mais muets, dont là, on a pas la moitié. Donc, du coup, on évalue à partir de quand même on évalue à partir d'un corpus qui est quand même, sacrément réduit de ce qu'a pu être le cinéma de Browning. Enfin, quoi? On a les synopsis des autres. On voit que dans l'ensemble, il continue à explorer inlassablement les mêmes thèmes. Quelqu'un disait que c'était un cinéaste compulsif. Oui, il y a un truc compulsif, c'est-à-dire vraiment l'obsession de vouloir rejouer le même récit, un peu comme si on était dans un samsara ou dans un cycle cosmique qui se répétait et où les acteurs finalement revenaient rejouer et revivre la même vie. Lon Chaney ou Priscilla Dean, c'est des êtres qui ont l'air d'être enfermés dans un cycle de réincarnation, qui à chaque fois doivent trouver la solution que le film précédent ne permettait pas de trouver. On avance comme ça.
Faut peut-être préciser qui est
Christophe Priscilla
Dean.
Absolument, vas-y.
C'est la. En fait, on parle souvent de Lon Chaney, qui est vraiment. Donc, il a fait 10 films avec Todd Browning. Et à l'époque où il a travaillé pour la Universal, où il faisait beaucoup de mélodrames, forme qu'il a toujours continué à filmer d'ailleurs, il était surtout affecté à des women's pictures, des films de femmes, des femmes indépendantes. Et il avait trouvé en Priscilla Dean une actrice favorite qui faisait preuve de beaucoup de détermination et d'indépendance et qui était une sorte de personnage féminin masculinisé en quelque sorte, qui maniait le Colt. Et avec le Club des Trois, son passage à la MGM et l'abandon de ses films de femmes et de la personnalité de Priscilla Dean au profit du comédien Lon Chaney, on peut presque voir un déplacement vers un personnage masculin qui, lui, est plutôt hystérisé, qui est effectivement détruit, on pourrait presque dire émasculé, qui a souvent eu un de ses organes perdus. Là, c'est assez étonnant comme on a presque deux carrières ou un développement de carrière à partir du personnage de Lon Chaney qui n'a rien à voir avec celui de Priscilla Dean.
Tout à fait juste. Et il y a un déplacement, on pourrait dire, en termes de l'univers de Dickens à celui de Victor Hugo. Oui.
Et les deux ont joué d'ailleurs, on parle du film d'ailleurs,
Outside the
Law. Un film dont on possède encore la copie, Outside the Law, où Priscilla Dean et Lon Chaney font partenaire, partenaire de pègre et sont tous les deux des bannis, des hors-la-loi.
Restofasion.
Non, pour rebondir sur ce que disait Christophe concernant l'émasculation de Lon Chaney, c'est vrai que pour l'anecdote, Lon Chaney parfois apostrophait Todd Browning en lui disant peut-être qu'à la fin de ce scénario-là, je vais pouvoir enfin vivre une idylle sentimentale. Mmh. Et en fait, Todd Browning, effectivement, le condamnait à errer dans les limbes du désespoir amoureux. Et donc, c'est un personnage qui, en plus d'être amputé de certains de ses membres ou d'être cicatrisé dans certains de ses films, vivait une vraie émasculation sentimentale, en fait.
Il n'avait jamais la femme.
Jamais.
Lon Chaney.
C'est le principe du mélodrame, mes petits amis. Voilà.
J'ai débrouillé.
Parfois on l'a, mais on la perd. Lui, il l'a même pas, en fait. Donc,
Alors, effectivement, le mélodrame, la figure de la femme masculinisée, de l'homme infirme. Mais on va terminer avec vous ce premier tour de table, Philippe Rouillet. C'est un univers marginal, l'univers des bas-fonds, l'univers de la pègre, des truands, l'univers également du burlesque et du musical, avec tous les phénomènes de foire, les freaks, tous cet univers, mais c'est surtout un univers du faux-semblant, du mensonge et de l'illusion, puisque les infirmes n'en sont pas, ou alors ils le sont, alors qu'ils... Il y a tout un jeu avec l'apparence, un jeu avec l'illusion et un jeu avec la supercherie.
Oui, mais qui se retourne, ce qui est passionnant, c'est que je pense qu'un des ressorts du mélodrame chez Todd Browning, c'est l'ironie du sort. C'est-à-dire qu'on joue sur l'illusion, l'apparence, et à la fin, l'illusion, l'apparence finit par être la vérité. Et c'est là que le mélodrame scelle son drame. C'est ça qui est toujours très très beau, je trouve, dans les films de Todd Browning. C'est-à-dire que ce jeu avec l'apparence est un jeu très dangereux.
C'est tout à fait juste, en particulier dans Blackbird, est tout à fait l'exemple de ça. Mais oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est une tradition aussi, l'univers des arnaqueurs et des unionistes, une tradition quasiment, on pourrait dire presque spécifiquement américaine. C'est-à-dire qu'à part Gogol, avec Le Réviseur et les âmes mortes, tous les grands classiques sur les arnaqueurs et les gens dont le travail est de tromper les autres, de le mettre dans l'illusion, c'est des œuvres américaines. Ça commence avec Herman Melville et le grand esprit. Confidence Man. Et Todd Browning s'inscrit aussi dans cette filiation des gens qui racontent des histoires de Confidence Man. C'est une filiation qui va jusqu'à la série Lost, quoi. Enfin, c'est un truc que les Américains n'ont jamais fini avec le problème des
si
trompeurs.
Si vous demandez vos plus beaux films de magie ou d'arnaque, vous n'auriez que des films anglo-saxons principalement à me citer. Parce que c'est une grande tradition, c'est ancré dans leur cinéma.
Statement by the prefect of police today, it was admitted that Paul Levon, former bank president, convicted of looting his own bank and killing a watchman, escaped from prison 4 months ago.
Thank you 1,000 times, monsieur. You'll never know how happy it makes me to leave one of my dolls in your beautiful home.
There's something in this house.
This is an authentic little replica itself. Isn't it?
Hello! Whatever you are, in God's name, listen and have mercy. I'll confess.
Trailer de 1936, Devil Doll de Todd Browning, d'après un roman d'Abraham Merritt, qui compte l'histoire, eh bien, effectivement, d'un savant qui miniaturise des créatures pour assouvir sa vengeance. Un film tout à fait passionnant, puisque d'une part, c'est un chef-d'œuvre du fantastique qui reprend effectivement les homoncules de La fiancée de Frankenstein et annonce déjà l'homme qui rétrécit avec des effets spéciaux tout à fait étonnants. Mais en même temps, on voit Lionel Barrymore jouer un personnage, justement, de Confidence Man, d'escroc, habillé en vieille dame, et la vieille dame, si j'ose dire, elle est au cœur du film de Browning que vous avez choisi pour cette évocation ce soir, Philippe Rouillet, c'est Le Club des Trois, 1925, film muet.
Alors je vous remercie François de nous avoir apporté la poupée du diable, parce que ça donne une idée de comment fonctionne Browning. C'est-à-dire que je crois que c'est pas Combe tout à l'heure qui disait qu'il aimait le ressassement des motifs, et il est le premier à faire non pas vraiment des remakes de ses films, mais il aime reprendre des choses. Ce film perdu, London After Midnight, on peut dire que La Marque du Vampire en est un remake, enfin voilà, et ça fonctionne comme ça dans sa filmographie. C'est assez troublant, et c'est vrai que, connaissant bien les poupées du diable, quand on redécouvre Le Club des Trois, c'est passionnant de voir. Bah, moi j'ai toujours aimé Le Club des Trois, c'est peut-être le film qui m'a fait venir à Browning hors Freaks, et c'est un plaisir fou de le revoir aujourd'hui, parce que c'est le film qui va cristalliser sa période post-universale. C'est-à-dire que c'est un film auquel il pense. Il le réalise en 1924, ça sort en 25, mais ça fait 7 ans qu'il y pense, ça fait 7 ans qu'il veut le réaliser, et les conditions sont pas réunies, et donc c'est un film qui l'a mûri, et c'est le film qui est vraiment le premier emblématique de sa collaboration avec Lon Chaney. Et donc Lon Chaney, il joue le professeur Echo, c'est-à-dire un ventriloque. Alors, vous voyez tout de suite le paradoxe, c'est-à-dire que c'est très passionnant de prendre un ventriloque dans un film muet. Hein. Et d'autant que ventriloque, c'est pas un métier comme ça. Son métier de ventriloque est au cœur du récit. puisqu'il va monter une association de malfaiteurs, hein, littéralement, avec deux autres personnes rencontrées dans le cirque. Il y a le Hercule de Foire, qui est joué par Victor McLaglen, et puis il y a un nain, qui est Harry Earls, qu'on connaît bien, puisque c'est le nain qui sera dans Freaks.
L'illibutien de Freaks.
Donc, le Hans de Freaks. Et à eux trois, leur idée, c'est donc de faire des villas. Mais plutôt que de, comme ça, aller la nuit quand les gens ne sont pas là, ils ont un plan beaucoup plus... et c'est là qu'on aime le cinéma de Todd Browning. C'est-à-dire que c'est un cinéma aussi de l'arabesque. Leur idée, c'est de construire un commerce d'animaux. Une animalerie. Alors, pourquoi? Parce que dans une animalerie, on vend des perroquets. Alors là encore, perroquet dans un film, on va dire perroquet, c'est des oiseaux qui parlent. Dans un film muet, c'est délicieux. Et donc, l'idée, c'est que, comme vous avez un ventriloque vendeur de perroquets, dans le magasin, tous les perroquets parlent. Alors, les clients achètent des perroquets qui parlent trop contents, et quand ils sont chez eux, les perroquets ne parlent plus. Donc, ils appellent le magasin pour se plaindre, en disant, j'ai acheté un perroquet qui ne parle pas. Alors, évidemment, le marchand se déplace, c'est Lon Chaney.
Marchande.
Et la marchande, puisque je vous l'ai dit, il est déguisé en vieille dame.
Voilà.
Donc il passe tout son temps déguisé en vieille dame pour mieux égarer, évidemment, la police. Et puis on se méfie pas. Un type balèze, vous avez Lon Chaney qui vient chez vous, même si c'est pour vous vendre un perroquet, vous avez peur. Une vieille dame qui vient avec
Lionel
son...
Lionel Barrymore,
avec
moins
son
inquiétant.
Qui vient avec son petit bébé. Parce que le nain est déguisé en bébé. Et donc, évidemment... Quand elle est là, les perroquets parlent de nouveau. Alors là, on se décarcasse, c'est génial. Todd Browning, c'est toutes les libertés. C'est l'âge d'or du muet. Il met carrément des bulles, comme dans une bande dessinée, des phylactères qui dépassent des cages où les perroquets disent des mots, etc. Et alors les gens sont contents et lui, il en profite pour repérer les lieux et la nuit venir cambrioler. Vous voyez le côté. J'ai voulu insister sur la construction parce que c'est ça le plaisir du cinéma Todd Browning. C'est un plaisir du récit. On sait que Lon Chaney va jouer quelque chose, un infirme, etc. Comment les choses vont se mettre en place. Et en même temps, il y a une grande rigueur. C'est-à-dire que cette association, elle est dépeinte dès le départ. Et dès le départ, il y a un vol qui se passe mal parce que le Lon Chaney est très amoureux de la vendeuse qui était une escroque qui était avec eux dans le monde des foires. Et comme ils ont engagé un comptable pour faire illusion et qu'elle est peut-être en train de tomber amoureuse du comptable, ils préfèrent rester, tenir la chandelle quand ils organisent le sapin de Noël chez Todd Browning, vous voyez le délire, plutôt que d'aller faire le casse. Et résultat, l'Hercule et le nain zigouillent le gars au lieu de lui voler. Et alors, ça crée. Alors, ce qui est très, très beau dans le film, c'est que Todd Browning crée des images. C'est-à-dire que cette histoire-là a d'immenses lacunes. Et c'est pas grave du tout. C'est-à-dire que y a par exemple une séance de procès où plutôt que d'aller témoigner à la barre...
Procès du comptable.
Le procès du comptable, le type préfère, le ventriloque préfère parler en ventriloquie alors qu'il est à l'autre bout de la salle d'audience. Bon, je veux dire, c'est des trucs invraisemblables, mais ça donne des idées de cinéma géniales. Et cette association de Lon Chaney avec le nain, la grand-mère, c'est très beau. Je pense notamment à une séquence où il y a une visite de la police qui est quand même un peu inquiète. Alors, au dernier moment, le nain se rappelle qu'il a un cigare dans la bouche, c'est une sorte de Baby Herman, tu vois. Donc, vite, on le camoufle. Et le collier de diamant, il est dans un jouet, il est dans un espèce d'éléphant, et ça annonce tout le côté animalerie, l'asile fauve qu'il y a chez Todd Browning. Et on joue avec ça. Mais je pense que Charlton s'en est souvenu quand il fait La Nuit du Chasseur, hein, avec le butin dans la poupée. Et tout le jeu, quand on prend la poupée, etc. Et là, il y a le flic qui prend l'éléphant, etc., jusqu'à ce que Victor McLaglen attrape le truc en disant « J'aime pas qu'on embête les enfants !» Et il redonne le jouet au gamin. C'est ça aussi la jubilation de Todd Browning.
Donc avec un film, Christophe Beer, où là, on est en permanence dans l'illusion et le faux-semblant, puisque les perroquets ne parlent pas et on les fait parler, que le bébé est en définitive un lilliputien cambrioleur chevronné, qu'en définitive, tout est dans l'illusion, tout est dans le mensonge.
Sauf Laurent Houtan.
Sauf Laurent Houtan, mais qui est tueur.
Et qui aura un vrai rôle.
Et qui est un vrai singe.
Oui, il y a l'illusion aussi de l'image de la famille, qui est assez exceptionnelle dans ce film, puisque donc une vieille grand-mère jouée par Lon Chaney, cet Hercule, ce bébé insupportable qui d'ailleurs est extrêmement méchant, voilà l'image de la famille telle que Todd Browning la voit. Donc là, on a aussi quelque chose d'assez étonnant dans ce cinéma hollywoodien vu par Todd Browning.
Mais ce qui est beau, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est que face à cette image, tu as 100% raison, il y a le jeune couple qui, lui, est vraiment très fleur bleue. Et alors, est-ce que on va troquer l'image de cette famille fausse pour faciliter cette vraie romance ou pas? Et ça, c'est le dilemme du film qui est très, très passionnant.
Oui, c'est le dilemme de beaucoup de films de Todd Browning, justement. Cette tendresse pour les freaks, pour les monstres, pour les outside the law, comme ce trio infernal. Et il lui oppose un couple assez phallo. Le comptable est un personnage extrêmement phallo, comme il y aura d'autres personnages phallo, comme le malabar de l'inconnu. Enfin, ils sont tous plus ou moins phallo, peut-être pas autant que ce comptable qui est vraiment...
Il est extrêmement niais. Il n'a même pas compris que les autres étaient des bandits. Il n'a même pas compris que la vieille dame était un homme.
Enfin, et Todd Browning...
Alors qu'il passe ses journées avec.
Et Lon Chaney s'efface pour laisser ce couple, cette escroque dont il était...
C'était peut-être pas la peine de le dire, mais bon.
Voilà.
Mais... Enfin, vous avez tout spoilé. Mais après, c'est pas grave.
Oui.
Vous venez de voir le film. Ouais, non, pas, en tout cas,
mais... Tant bien, il n'y a pas de DVD.
Oui. Tant qu'on est encore sur le Club des Trois, un mot pour dire que c'est une adaptation d'un livre de Todd Robbins. Oui. Todd Robbins est très important parce que ça va être aussi une de ses nouvelles, Spurs, les éperons, qui va donner Freaks. Et Todd Robbins est un écrivain un peu oublié aujourd'hui, mais il a été suffisamment important à l'époque pour qu'on soupçonne que c'est la source du pseudonyme de Charles Browning, Todd Browning. C'est une des trois possibilités qui ont été données, avec celle de dire c'est Todd, Toddy, donc le tristeur, le rusé, le renard, et puis un jockey aussi dont j'ai oublié le nom, mais qu'il aime bien le jockey. Donc
toujours la mort.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Lament of the Tape Beatles, un choix de Laurent Polleret pour notre playlist Browning de ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Alors on a évoqué donc le Club des Trois, 1925, le démarrage de sa collaboration avec Lon Chaney. Deux ans plus tard, c'est le chef-d'œuvre, pas conventionnellement, 1927, L'Inconnu. Alors là, on est plus dans, je dirais, la marginalité, les bas-fonds, les arnaqueurs et les escrocs. On est toujours dans l'illusion, mais on est surtout dans le malheur et la tragédie personnelle.
Il y a tout à la fois, c'est dans L'Inconnu, c'est-à-dire qu'on a le milieu du cirque. Dans ce film, c'est Lon Chaney fait Alonzo, qui est un faux homme, qui fait semblant d'avoir les bras coupés. Je sais pas comment on appelle ça, c'est comme un mec sans bras, quoi.
Un double manchot.
Semblant d'être un double manchot, qui se cache dans un cirque, comme ça, et qui a un espèce de numéro de lancer de couteau, sans bras, avec les pieds, et qui tombe qui est amoureux de la jeune fille qui joue avec lui, qui est jouée par John Crawford. Et qui, elle, a une espèce de traumatisme de base qui fait qu'elle a peur d'être prise dans les bras d'un homme, qui a peur des grands bras des hommes.
Les mains des hommes.
Et du coup, Lon Chaney pense qu'il a toutes ses chances, mais il va... Il a oublié qu'il était dans un film de Todd Browning et que quoi, c'est comme Kenny dans un épisode de South Park. Il va mourir quoi. Bah non, il va pas pouvoir y arriver. Oh mon Dieu, Lon Chaney croit encore qu'il va pouvoir tomber amoureux cette fois. Et donc là, il pense qu'il y a toutes ses chances. Là, c'est vrai que ça se danse plutôt bien, quoi, la horreur des mammouths. Et pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout, il va carrément se faire, amputer des deux bras. Et elle est plus ou moins courtisée par un falot, comme a dit Christophe, comme vous
Malabar.
Avez dit.
Malabar.
Qui est très sympathique, comme
très
vous
gentil,
êtes.
Oui.
Il est très gentil. Donc un costaud, mais un costaud idéal, mais adorable. Petite moustache, très très mignon, très gentil, et Lon Chaney, un peu perversement, lui dit, mais vas-y, prends-la dans tes bras, tu vas voir, ça va marcher, etc. Il part se faire couper les bras. C'est horrible. On rigole, mais c'est vraiment, oui. Quand on voit, c'est terrible, c'est très très triste.
Il faut peut-être dire pourquoi il se coupe les bras ou pas. Non.
Pas nécessaire. Oui, déjà qu'on va prendre, on prend beaucoup de temps, oui. On va aller en détail, mais quoi, quand il revient. Et qu'il retrouve son ami, son ami nain, qui est joué par cet acteur que tu aimes beaucoup.
John George.
Oui. John George, qui est aussi dans Outside de l'eau, je crois. Mm. Et quand il discute avec John George, il boit son petit verre avec son pied, là, il est en train de boire son verre, et puis là, je vais aller retrouver ma dulcinée, quoi. Il y va, et là, il a le malheur de voir qu'en fait, entre temps, finalement, elle a changé d'avis et qu'elle aime bien être prise dans ses bras par Malabar. Et là, on a, pour moi, des scènes les plus bouleversantes de tout le cinéma muet. Et quand je dis tout le cinéma muet, je pourrais dire quasiment tout le cinéma. C'est la façon dont Lon Chaney rit de désespoir. C'est un rire. C'est-à-dire que c'est dans un film muet, on n'a pas le son de ce rire. Mais on voit juste le regard et le rire. Et on est pris, ça vous attrape le ventre. Alors, ce film-là, comment dire, pour arriver à ce moment-là, à cette espèce de moment qui est comme une espèce de climax de ce que peut être, comment dire, l'idée d'être pris dans une répétition de malheur ou dans une suite de malheur ou d'être, en tout cas, grosso modo, d'avoir le monde, le sort contre soi. Tout à l'heure, vous parliez justement du fait que, enfin, on parle beaucoup comme ça, on va parler de Lon Chaney, du fait qu'il est toujours malheureux en amour. J'avais trouvé une interview de Todd Browning où il disait que Lon Chaney ne pouvait jamais rencontrer l'amour dans ses films, qu'il en était empêché, maudit par une sorte, ou une espèce d'inconscient collectif. Je traduis comme j'ai pu, hein. Mais une espèce d'inconscient collectif. C'est assez étrange. C'est-à-dire que c'est quasiment comme si c'était extérieur à lui. Il est l'objet ou le support de cette espèce de continuité de malheur. C'est comme s'il est porté ce malheur sur lui. Il incarnait. Comme un personnage, comme une forme, c'est une forme de martyr. Ces êtres ténébreux, je fais un micro aparté par rapport à l'inconnu, quoi. Mais en voyant tous ces films de Lon Chaney, moi je me disais, en regardant ces films-là, qu'il y a un rôle que Lon Chaney, je crois, n'a pas eu a priori, et qu'il aurait été formidable par Browning. Ce serait le rôle de Judas. Ce serait de jouer vraiment le rôle de Judas, c'est-à-dire vraiment être ténébreux, mais à l'extrême, et ce serait le Judas de Borges, c'est-à-dire qu'en fait, ce serait lui l'incarnation de Dieu. Dieu s'est incarné en Judas, pas en Jésus.
Ce qui est passionnant aussi dans ce que vient de dire Pacôme, c'est que cette séquence la plus émouvante, selon toi, du cinéma, pour moi, elle est très révélatrice du cinéma de Browning. C'est-à-dire que dans presque chacun de ses films, on pourrait isoler une séquence comme ça, qui est la séquence climax, peut-être pas aussi flamboyante que dans l'inconnu, et ça renvoie à ces personnages qui ont toujours une construction, et tout le film raconte la construction pour se venger, pour obtenir quelque chose, et finalement ça va se retourner contre eux. Et au même titre que tous les films, toutes les intrigues racontent cette construction, on pourrait dire que tout le cinéma de Todd Browning, chacun de ses films va vers la construction d'une séquence qui est la séquence de révélation et qui est cristallisée dans l'inconnu.
Surtout que là, ce qui est absolument génial sur le plan d'interprétation de Chaney, c'est qu'il essaie de faire bon visage à la situation qui vient de se révéler. Cet homme, enfin, il faut quand même se représenter la situation. Cet homme qui a menti toute sa vie en se faisant passer pour un infirme privé de bras et qui, en définitive, avait ses deux bras, mais qui était compressé. On trouvera ça d'ailleurs dans le Pacte des loups avec Vincent Cassel. Clin d'œil de Christophe Gans à Lon Chaney, à Todd Browning. Cet homme qui a qui vivait dans ce corset, se fait amputer des bras, c'est-à-dire passe du mensonge à la vérité. Donc il accède, il se sacrifie pour accéder à la vérité. Et cette vérité, il se rend compte qu'elle est inutile. Donc déjà, il y a sur le plan un effondrement.
C'est l'ironie du sort dont je parlais.
Voilà, c'est l'ironie du sort, mais comme tragédie absolue. Et en plus de ça, il essaie de faire de bons visages. Et ce que montre Chanet, c'est le surmoi, c'est-à-dire d'une certaine façon le masque de sourire et de politesse qui est un masque durci, figé, et qui se dissout véritablement sous l'assaut de la souffrance. Il arrive à montrer à la fois la volonté de garder un masque comme ça, un peu bienveillant, un peu, hein, et de montrer que ce masque se détruit. C'est quand même absolument génial.
Ah, extraordinaire. Ça fait penser aussi au fait que c'est quasiment aussi une image de son jeu ou de sa carrière d'acteur, qui est d'arriver à, comment dire, d'aller jusqu'au bout du jeu dans la souffrance. C'est un martyr aussi du jeu. Il y a une interview de Browning aussi où il le dit, c'est pas une blague qu'on disait que Chanet souffrait. J'en ai souffré pour ces rôles.
Christophe Beer. Il souffrait, ouais. mais plus ironie, mais même cruauté du sort. Ouais. Et là, on peut aussi voir dans ce cinéma de Todd Browning, et plus particulièrement dans L'Inconnu, moins que dans d'autres films, une sorte de conte cruel et qui peut faire rire. Parce que, alors, une constance du mélodrame, c'est aussi la naïveté, la grande naïveté des personnages. Ce sont des personnages qui ont cette naïveté folle de croire qu'en se coupant les bras, on va pouvoir accéder à l'amour, et qui ont aussi une sorte d'excès d'orgueil, enfin de croire qu'ils ont une sorte de toute-puissance quasiment enfantine, et qui vont se retrouver finalement, oui, comme l'arroseur arrosé, là tout d'un coup, leur idée folle auquel ils croient va se retourner contre eux. Et donc c'est effectivement cet effondrement qui est à la fois un effondrement tragique, mais qu'on pourrait retourner comme un gant, comme un élément comique. Peut-être il y a aussi cette notion de cruauté chez Todd Browning.
Et face à des personnages, le couple qui crée le martyr et la cruauté le font en toute innocence. Puisque John Crawford, qui joue le rôle de l'assistante de scène...
John Crawford est assez allumeuse, hein, quand même. Mais Todd Browning ne nous laisse pas...
Allumeuse, mais pas femme fatale.
Ben oui, non,
femme
non, fatale, non, c'est ambigu. Alors que Hercule, lui, est un bon gros garçon, tout à fait sympathique. Et devant, il y a ce monument de souffrance...
Lon Chaney avait été prévenu par son assistant John George, hein, par Coyot. Il avait été prévenu, malgré tout, il est allé au bout de son idée.
Rosto.
Oui, puis tout à l'heure, on parlait de ressassement de motifs, et c'est vrai que cette scène clé, ce climax de l'inconnu, on le retrouve d'une certaine manière dans une version un petit peu plus soft à la fin du Club des Trois. Hein. C'est un peu la répétition générale. On voit Lon Chaney qui incarne Echo, qui est sur scène, et il voit sa dulcinée partir au loin, et il baisse la tête, il commence à s'effondrer, et puis on vient lui rappeler qu'il a son show à mener jusqu'au bout, et là, show must go on, il est obligé de continuer, et d'une certaine façon, on retrouve ça dans l'inconnu d'une manière beaucoup plus dramatique.
C'est un sacrifice. Oui. Il participe de ça, il accepte ça, alors qu'évidemment, dans l'inconnu, ça lui a posé.
Bien sûr.
Laurent Polleret pour annoncer West of Zanzibar 1928, monsieur
oui,
Christophe
Bier. C'est le 9e des 10 films Todd Browning, Lon Chaney. Alors, l'histoire, pour faire assez
simple,
court, oui.
Simple.
Nous sommes dans la jungle congolaise, Dead Legs, jambes mortes, alias Frozo, ancien prestidigitateur devenu paralysé des jambes, on s'en doute c'est Lon Chaney, paralysé à la suite d'une bagarre avec l'amant de sa femme, est obsédé depuis 18 ans par le désir de vengeance. d'autant plus que sa femme était revenue à lui pour mourir en lui abandonnant un bébé. « Il paiera lui et sa sale gosse », hurle-t-il, chaviré par le chagrin. Ça, ce sont les 6 premières minutes du film. Autant dire que nous sommes dans la concision la plus extrême avec Todd Browning. Et après, nous avons un intertitre, 18 ans plus tard, à Zanzibar. Et là, on le voit régnant sur une tribu d'indigènes, considéré comme un sorcier grâce à ses vieux tours de magie. La sale gosse Maisie a été placée dans le bouge le plus infâme de Zanzibar, où elle a été prostituée et où elle est devenue alcoolique. Il décide de la faire sortir du bordel pour l'humilier davantage et la confronter à son rival, organiser la mise à mort de l'un et de l'autre. Et le mélodrame, surtout chez Browning, c'est l'art vraiment d'un renversement vraiment infernal. On l'aura compris, je spoil, mais ça me paraît tellement évident. Dead Legs va découvrir qu'il est le véritable père et qu'il s'est trompé. Donc, on a là, avec ce film, un nouveau motif, comme dans L'Inconnu, d'un personnage masochiste. Le masochisme, depuis le fameux texte de Gilles Deleuze, présentation de Sacher Masoch, on l'a compris, le corps du masochiste, c'est aussi le père, non pas le père fouetteur qu'on croit voir dans les attributs phalliques de la femme dominante. C'est le père fouetteur, c'est le corps du masochiste qui essaye de rendre des coups à ce père. Et là, en l'occurrence, avec les mélodrames de Todd Browning, nous sommes dans une sorte de relation incestueuse. Père-fille, c'est très important. On le voit surtout dans L'Inconnu, avec la différence d'âge de Nanon et d'Alonzo. Et c'est encore plus flagrant ici, puisque nous avons véritablement un père et sa fille. Et nous avons cet instant incandescent dont parlait Pacôme avec L'Inconnu. Nous l'avons aussi dans ce film, évidemment, lorsque il découvre la vérité. Et c'est un moment de pur excès où sa raison non pas vacille ni sombre, mais où il prend enfin conscience de la réalité des choses. Il prend conscience de son aveuglement, il prend conscience du néant de sa vie absurde qui a été bâtie entièrement sur un mensonge, et il prend conscience de sa solitude et il est prisonnier de sa machination puisqu'il est dans l'impossibilité de révéler enfin à cette femme qu'il est son véritable père, lui qui s'est évertué dans l'abjection et à l'humilier jusqu'au bout. Et il n'a, comme beaucoup de personnages, soit symboliquement ou réellement, il n'a qu'une seule échappatoire qui est l'effacement, ici la mort, carrément la mort. Et alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans West of Zanzibar, par rapport, c'est comme si on passait à un degré supérieur par rapport à L'Inconnu. C'est un film beaucoup plus noir, à mon sens, moins grinçant. Le personnage de Frozo est peut-être encore plus pathétique parce que, en fait, il est déjà mort. Ça fait 18 ans qu'il est mort, en fait. 18 ans, il s'appelle Dead Legs. Son surnom, Jambe Morte, son surnom porte déjà la mort en lui. Et c'est ce que dit le personnage qui va partir avec sa fille à la fin, quand il découvre ce secret et qu'il lui dit, pour l'apaiser, « Votre véritable père est mort depuis longtemps », il le dit devant Frozo. Effectivement, là, ce personnage est un personnage déjà de mort-vivant. Et il y a un plan qui est formidable aussi. Alors, le film fait 65 minutes, comme beaucoup de films très concis. Mais il y a un moment de mélancolie totale, un plan où on voit Frozo sur la terrasse, en train de regarder le paysage. Il tient un singe blotti contre lui. Il le caresse. C'est un moment de pure merveille, d'émotion. Mais on a tout d'un coup ce plan nous laisse supposer, nous fait comprendre que ce personnage, au fond, il attend déjà la mort, ou il est déjà mort, et il le sait. On a l'impression qu'avec ce plan, que le personnage sait déjà tout ça. Il y a une sorte de mélancolie que nous n'avons pas dans la frénésie de L'Inconnu. Et c'est ça qui je trouve, fait aussi la grande valeur de West of Zanzibar. Et il y a cette image coloniale ahurissante. Absolument, voilà. Du Congo, qui est reconstituée dans les cours de Culver City, dans les studios américains. Alors ça, c'est le théâtre de ses pulsions, c'est son enfer intime. Alors, il y a aussi... On a évoqué les perroquets. Il y a des chevaux dans l'inconnu. Il y a toujours une ménagerie chez Todd Browning. Et là, il y a des plans de serpents, un crocodile, des lézards. Il y a toutes sortes de plans, une sorte d'animalité grouillante. Et Lon Chaney lui-même, son corps imprime déjà. Il ondule comme un serpent.
C'est la caméra qui...
Voilà.
La caméra en contre-plongée insiste beaucoup
énormément
là-dessus.
Énormément des plans au ras du sol. Il n'est plus cet homme. Il est déjà mort. Il a déjà rejoint cette animalité sauvage. Et moi, ça me fait penser quand même aussi à Bela Lugosi, dans Dracula, de Todd Browning, dont le drame est de ne pas pouvoir mourir. C'est un autre paria des personnages de Todd Browning. Et là, nous avons un personnage tel que Frozo qui se rend compte qu'il est déjà mort.
Et ce qui est très intéressant, c'est que l'explication n'a pas lieu entre les personnages. Tu l'as dit, Christophe, et c'est toujours le cas dans tous les films de... C'est-à-dire qu'il y a un moment où on pourrait imaginer qu'il y ait un passage aux aveux ou une reconnaissance, etc. Et les personnages préfèrent s'effacer à ce moment-là.
Oui.
C'est-à-dire qu'à aucun moment, le personnage va dire « je me suis trompé », etc. On préfère la mort, on préfère le sacrifice... On préfère...
Une sorte de grandeur, une grandeur.
Et c'est une grandeur d'âme parce que l'autre ne se rend même pas compte de la force du sacrifice. Ça permet notamment à faire naître l'amour. Et à chaque fois, Lon Chaney permet que l'amour est là. Et ce qui est très beau à la fin de West of Zanzibar, c'est que la magie ne marche plus. C'est-à-dire qu'il est passé comme par un dieu par rapport aux indigènes grâce à ses tours de magie. Et finalement, eux-mêmes ont réussi à décoder en quelque sorte les astuces. Et il le sait. Et son dernier tour, c'est le tour de trop. Celui qui ne va pas marcher et qui va l'emporter dans la tombe.
Et tout ça dans une Afrique pré-sélinienne qui évoque un peu la compagnie Pordurière de Fort Gonneau dans Voyage au bout de la nuit.
Ça m'a fait penser au cœur des ténèbres aussi.
Absolument.
Parce que c'est le personnage de Kurtz d'une certaine façon.
Bien sûr.
Accomptiellement.
Alors, ce que c'est très intéressant, que vous disiez aussi par rapport que dit Christophe sur à la fois donc le rapport père-fille qui est rejoué encore dans West of Zanzibar, mais qui est un espèce de motif qui revient tout le temps, et aussi le personnage déjà mort. Deux trucs, deux bizarreries par rapport à sa biographie. L'une qui est le fait qu'il a pas eu d'enfant. Et pour quelqu'un qui a mis autant en scène la question de la filiation, c'est une sorte de mystère. Mmh. Et le deuxième, et c'est peut-être là où il y a quand même une espèce de micro-clé, c'est qu'il y a un événement dans la vie de Browning qui précède son entrée dans le long métrage. C'est-à-dire après qu'il ait commencé à faire quelques courts métrages et fait l'assistant de Griffith sur Tolérance. C'est en juin 1915, l'accident de voiture qui donne la mort au jeune premier Elmer Bouff, un des jeunes premiers qui jouait dans le film de Griffith, et qui lui laisse à l'hôpital pendant un an. On sait au moins qu'il perd toutes ses dents, qu'il est fracturé à pas mal d'endroits, que son thorax est écrasé, et que pendant un an, il ne pourra pas tourner, et que pendant un an, il rêve à son cinéma de plus tard. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu ce personnage mutilé de Chaney
qui caresse le singe.
Mmh. Et dernier élément par rapport à ça, c'est qu'il va terminer misanthrope, Browning, pendant 20 ans, mais aimant les animaux.
Oui.
Et les seules relations humaines qu'il aura,
c'est avec des vétérinaires. Des chiens et des canards.
Des chiens et des canards et des vétérinaires, quoi. Voilà.
Voilà, on termine avec vous, Fausto, et Where East is East, nom de là, 1929.
1929, dernière et dixième collaboration donc, entre Todd Browning et Lon Chaney, donc on quitte l'Ouest pour l'Est, avec un film qui est un carré amoureux incestueux entre Lon Chaney, Lupe Vélez et Lloyd Hughes et Estelle Taylor. Donc c'est l'histoire d'une union contrariée entre une bombe atomique, hein, Toyo Haynes, qui est donc la fille de Lon Chaney, Tiger Haynes, et puis un personnage phallos, comme on en a parlé depuis le début de cette émission-là.
Les phallos vont en enfer.
Voilà, un certain, exactement, magnifique.
Chez Todd Browning.
Les phallos vont en enfer.
Un certain Bobby Bailey, qui est effectivement un personnage pas très très intéressant, et d'ailleurs Todd Browning ne s'y intéresse pas vraiment, une sorte d'orientaliste asiatophile qui craque dès qu'il trouve une créature à moitié bridée, donc voilà, un personnage fétichiste, mais qui n'a pas vraiment trop d'épaisseur. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce film-là, en fait, Lon Chaney souffre peut-être un peu moins que dans les autres films.
Oui.
Déjà, il faut préciser que c'est un personnage qui est vraiment tout en haut de la chaîne alimentaire. C'est un vrai prédateur. D'ailleurs, la présentation de l'introduction du personnage, on le voit en train de chasser un tigre. Donc Lon Chaney est tout en muscles, en cicatrices. Enfin, il dégage vraiment une tension animale qu'il avait déjà dans West of Zanzibar et aussi sexuelle, puisque le personnage est quand même très souvent torse nu ou avec un petit gilet. Donc il laisse très souvent apparaître son corps assez bien tanké. Donc dès le début, on voit que ce personnage-là est clairement le prédateur, sauf que il y a cette subtilité chez Todd Browning, c'est-à-dire que quand bien même on pense que c'est lui qui est tout en haut de la chaîne alimentaire, finalement il y a quelqu'un qui est encore au-dessus de lui, et ce personnage-là, il s'avère que c'est son ex-femme. Alors on n'apprend pas en fait dès le début du film que c'est son ex-femme, ce qui rend justement ce carré amoureux incestueux. C'est qu'en fait, le personnage de Lon Chaney, donc le personnage de Tiger Haynes, chasseur de tigres, protège donc sa fille des assauts masculins et donc des assauts de Bobby Bailey. Et dès le début, il y a une sorte de malaise très étrange qui s'installe en fait, et que le spectateur décèle très rapidement. C'est dans la façon dont le père se comporte avec sa fille. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que c'est un film muet, donc tout se joue à travers les gestes, à travers la façon dont il va positionner ses mains en fait sur le corps de sa fille, parfois un peu trop sur les hanches, trop sur le ventre, la façon dont il l'embrasse à répétition aussi. Quand je parlais de carré incestueux, on se rend compte aussi que ces embrassades à répétition vont aussi se faire du côté de son ex-femme, incarnée par Estelle Taylor, qui en fait va littéralement harponner le prétendant de Toyo Haynes. Alors c'est très, j'ai l'impression de raconter l'histoire d'un soap en fait là, mais c'est le film a un petit peu de ça. Et elle aussi embrasse donc son beau-fils sur la bouche de manière très insistante. Donc l'inceste est vraiment au cœur en fait de ce film. Et aussi on parlait des familles dysfonctionnelles. Là on en a une complètement. C'est-à-dire qu'on a une famille qui est littéralement décomposée. Le père porte effectivement la culotte, mais il faut voir la façon dont il se comporte avec la fille. La mère essaie de se rabibocher avec la fille, mais elle n'a Dieu que pour son beau-fils avec lequel elle souhaite partir. Donc on a toute une série de dysfonctionnements qui sont absolument fascinants. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que dès le début du film, en fait, le curseur empathique se déplace effectivement du côté du personnage de Bobby Bailey. Le spectateur se méfie un peu quand même du personnage de Lon Chaney, qui, comme je disais, est un vrai prédateur, qui est quand même quelqu'un qui semble assez violent, à la mine renfrognée, qui est plutôt menaçant comme un tigre. Et en fait, au fur et à mesure où l'intrigue progresse, et qui en plus a des réflexes incestueux, au fur et à mesure où le film progresse, on se rend compte finalement que c'est un homme qui cherche avant tout à protéger sa famille. Alors il le fait certes avec des mains mal placées, mais en tout cas il le fait du mieux qu'il peut. Et on parlait tout à l'heure encore une fois de motifs et de ressassement de motifs. On avait un singe dans le club des trois qui permettait d'exercer une vengeance. Là, on a une magnifique femelle gorille hirsute appelée Ranga, si je me souviens bien. Voilà. Je ne sais pas qui incarne
Charles Guémora.
Ah, merci Christophe. Et qui permet d'exercer une vengeance hors champ, mais qu'on imagine tout à fait cruelle.
Merci Fausto. Donc ça, c'était votre évocation de Where East is East. Donc la fin de notre visite exploration de l'univers de Todd Browning, dont les films sont visibles à Paris à la Cinémathèque jusqu'au 4 mars. Mauvais Jean remercie chaleureusement Christian Valor et Alain Delbreuil pour l'aide qu'ils nous ont apportée pour cette émission. Toute l'équipe de Mauvais Jean, Laurent Polleret, Valérie Lavalard, Céline Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Philippe Rouillet, Paco Thielman, Fausto Fazulo, Christophe Bir et François Angelier vous remercie de nous avoir écoutés ce soir. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de la revue Carbone.